Servez Jéhovah dans la joie, dit le psaume 100, verset 2. Donc Jéhovah veut qu'on soit joyeux. Et il nous a donné de nombreuses raisons de nous réjouir. Il nous a donné la vie, avec toutes ses petites joies. Il nous a donné la Bible pour nous aider à vivre heureux. Et il nous permet de vivre plein de belles choses. Jéhovah est vraiment celui qui donne la joie. Mais Satan, lui, ne veut pas qu'on serve Jéhovah avec joie. Pourquoi? Déjà parce qu'il sait que la joie, c'est ce qui nous pousse à continuer de prêcher. Et c'est une activité qu'il veut à tout prix stopper. Donc il essaie de nous faire perdre notre joie. Et il se sert parfois de l'opposition des gouvernements, ou de notre famille et de notre entourage. Satan veut aussi qu'on passe moins de temps à servir Jéhovah, pour pouvoir acquérir des choses qui ne sont pas réellement nécessaires. Il veut nous faire croire qu'avoir toujours plus de biens matériels nous rendra vraiment heureux. Mais c'est faux. Les tactiques de Satan ne datent pas d'hier. Nous allons d'ailleurs écouter des parties des livres d'Esdras, d'Agée et de Zacharie et tirer des leçons qui nous aideront à servir Jéhovah dans la joie dès aujourd'hui. Essayez de repérer ce qui a donné, puis ce qui a fait perdre de la joie aux serviteurs de Dieu à cette époque. Voyez aussi pourquoi et comment, à notre époque, nous pouvons ressentir la joie qui vient de Jéhovah, même dans une situation difficile. Esdras était un prêtre chargé de copier la loi de Moïse. Il a écrit le livre qui porte son nom. Le livre d'Esdras décrit ce qui est arrivé à la nation d'Israël après les événements rapportés en Deux Chroniques, qu'Esdras a sûrement aussi écrit. On est en 537 avant notre ère, et de nombreux Juifs sont sur le point de retourner en Juda. Les Israélites viennent de passer 70 ans en captivité à Babylone pour avoir adoré des faux dieux. Ça a été dur, mais ils ont appris de leurs erreurs. Et ils ne sont plus jamais retombés dans l'idolâtrie. Il est maintenant temps de rétablir le culte pur à Jérusalem. Le récit que nous allons écouter se déroule pendant le règne de plusieurs rois perses. Il commence par un événement joyeux sous le règne de Cyrus. Prenons Esdras 1, versets 1 à 6, et suivons la lecture dans nos Bibles.
Dans la première année du roi Cyrus de Perse, Jéhovah l'incita à faire une proclamation dans tout son royaume pour que s'accomplisse la parole de Jéhovah transmise par Jérémie. Cette proclamation, qu'il mit aussi par écrit, disait
« Voici ce que dit le roi Cyrus de Perse. Jéhovah, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre. » Et il m'a chargé de lui construire une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Quels sont ceux qui parmi vous font partie de son peuple? Que leur Dieu soit avec eux, et qu'ils montent à Jérusalem, qui est en Juda, et qu'ils reconstruisent la maison de Jéhovah, le Dieu d'Israël. C'est le vrai Dieu, sa maison qui était à Jérusalem. Celui qui réside comme étranger, quel que soit l'endroit où il se trouve, que ses voisins le soutiennent en lui donnant de l'argent et de l'or, des biens et du bétail, ainsi que l'offrande volontaire pour la maison du vrai Dieu qui était à Jérusalem. »
Alors les chefs des groupes de familles de Juda et de Benjamin, les prêtres et les lévites, tous ceux que le vrai Dieu avait poussés à l'action, se préparèrent à partir à Jérusalem pour y reconstruire le temple de Jéhovah. Tous leurs voisins leur apportèrent leur soutien, en leur donnant des ustensiles en argent et en or, des biens, du bétail et des objets précieux, sans compter toutes les offrandes volontaires.
Vous vous rendez compte? Jéhovah permet aux Juifs de retourner à Jérusalem. Mais en plus, il fait en sorte que le roi Cyrus lui-même leur donne la mission de reconstruire le temple. Beaucoup de Juifs acceptent avec joie. Et ceux qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas retourner à Jérusalem, soutiennent ce projet financièrement. C'est ainsi qu'au début du printemps de l'année 537 avant notre ère, presque 50 000 Israélites quittent Babylone. À leur tête, il y a le grand prêtre Jéchoua, aussi appelé Josué, et un gouverneur nommé par Cyrus, Zorobabel. Ils arrivent en Juda au début de l'automne. Ils sont très joyeux. Mais vont-ils réussir à garder leur joie? Découvrons ce qu'ils font dès qu'ils sont installés. Lisons Esdras 3, versets 1 à 6.
Quand arriva le septième mois et que les Israélites furent installés dans leur ville, ils se réunirent d'un commun accord à Jérusalem. Jéchoua, fils de Jehozadak, et les prêtres qui officiaient avec lui, ainsi que Zorobabel, fils de Shealtiel et ses frères, se mirent au travail et construisirent l'autel du Dieu d'Israël, afin de pouvoir offrir dessus des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, l'homme du vrai Dieu. Ils installèrent donc l'autel là où il se trouvait auparavant, même s'ils avaient peur des peuples des pays voisins. Et ils se mirent à offrir dessus des holocaustes à Jéhovah, les holocaustes du matin et du soir. Puis ils célébrèrent la fête des huttes, comme le demandait la loi, et ils offrirent jour après jour le nombre exact d'holocaustes qui étaient exigés. Par la suite, ils offrirent les holocaustes réguliers, les sacrifices pour les nouvelles lunes, et ceux pour toutes les époques de fête de Jéhovah, époques sanctifiées, ainsi que les sacrifices de tous ceux qui avaient envie de faire une offrande volontaire à Jéhovah. À partir du premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à Jéhovah, alors que les fondations du temple de Jéhovah n'étaient pas encore posées.
Vous avez vu, les Juifs rétablissent le culte pur, même s'ils ont peur des peuples des pays voisins. Grâce au courage qu'ils ont manifesté, l'ambiance est extrêmement joyeuse. Et c'est normal, parce que c'est la fête des huttes, et que Moïse avait dit aux Israélites que pendant cette fête, ils seraient remplis de joie. L'année d'après, ils posent courageusement les fondations du temple, et ils le font dans la joie. Voyons comment ça s'est passé en Esdras 3, versets 10 à 13.
Quand les ouvriers posèrent les fondations du temple de Jéhovah, les prêtres, en vêtements officiels, avec des trompettes, et les Lévites, les fils d'Asaph, avec des cymbales, prirent place pour louer Jéhovah, selon les indications qu'avait données le roi David d'Israël. Et ils se mirent à chanter, ils louaient Jéhovah et le remerciaient. Et un groupe après l'autre chantait « Car il est bon, et son amour fidèle envers Israël est éternel ». Puis tout le peuple prononça d'une voix forte une louange à Jéhovah, parce que les fondations du temple de Jéhovah avaient été posées. Pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de ce temple, beaucoup de prêtres, de lévites et de chefs de groupes de famille, les hommes âgés qui avaient vu l'ancien temple, pleuraient bruyamment, tandis que beaucoup d'autres poussaient de grands cris de joie. On ne pouvait pas distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs. En effet, la clameur était telle que le bruit s'entendait de très loin.
Eh oui, certains des Israélites les plus âgés pleurent, parce qu'ils pensent que ce temple ne pourra jamais être aussi glorieux que le temple de Salomon. Mais on entend plus les cris de joie des autres Juifs que ses pleurs. Par contre, les peuples voisins ne sont pas contents du tout. Ils essaient de priver les Israélites de leur joie. Quelle ruse vont-ils trouver? Lisons Esdras 4, versets 1 à 3.
Quand les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les exilés rapatriés construisaient un temple à Jéhovah, le Dieu d'Israël, ils allèrent aussitôt voir Zorobabel et les chefs de groupes de famille, et ils leur dirent
« Laissez-nous construire avec vous. En effet, comme vous, nous adorons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le règne du roi Saradon d'Assyrie, qui nous a fait venir ici. »
Mais Zorobabel, Jéchoua et le reste des chefs des groupes de famille d'Israël leur répondirent
« Il n'est pas question que vous construisiez avec nous une maison à notre Dieu. C'est nous seuls qui la construirons pour Jéhovah le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus. »
Zorobabel a compris que leurs ennemis ne voulaient pas vraiment les aider, mais plutôt leur faire du tort. Quand il a rejeté leur proposition, ils ont essayé d'empêcher les Juifs de reconstruire le temple. Lisons maintenant les versets 4 à 7.
Alors les gens du pays cherchèrent constamment à décourager les Juifs et à leur faire peur pour qu'ils arrêtent de construire. Ils soudoyèrent des conseillers du roi pour faire échouer les projets des Juifs durant tout le règne du roi Cyrus de Perse jusqu'au règne du roi Darius de Perse. Au début du règne d'Assuérus, ils écrivirent une lettre d'accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et pendant le règne du roi Artaxerxès de Perse, Bishlam, Mithridate, Tabéel et le reste de ses collègues écrivirent au roi Artaxerxès. Ils traduisirent la lettre en araméen et l'écrivirent en caractère araméen.
Lisons ce que Rehum, un des fonctionnaires en chef du gouvernement, et d'autres ennemis d'Israël, ont écrit dans cette lettre. Voyons de quoi ils accusent faussement les Juifs en Esdras 4, versets 11 à 16.
Voici une copie de la lettre qu'ils lui envoyèrent.
Au roi Artaxerxès, de la part de tes serviteurs, les hommes de la région de l'au-delà du fleuve. Et maintenant, que le roi sache que les Juifs qui sont partis de chez toi sont arrivés chez nous, à Jérusalem. Ils sont en train de reconstruire la ville rebelle et méchante. Ils en achèvent les murailles et en réparent les fondations. Maintenant, que le roi sache que si cette ville est reconstruite et si ses murailles sont achevées, ils ne paieront ni impôts, ni tributs, ni droits de passage, et les finances des rois subiront des pertes. Étant donné que nous recevons notre salaire du palais et qu'il nous paraît anormal que l'on nuise aux intérêts du roi, nous avons tenu à envoyer cette lettre au roi pour le mettre au courant de la situation, pour qu'on fasse des recherches dans le livre de l'histoire de tes ancêtres. Dans ce livre, tu trouveras des informations et tu découvriras que cette ville est une ville rebelle, une ville qui cause du tort au roi et aux provinces, et où il s'est trouvé depuis les temps anciens des hommes qui provoquaient des révoltes. Voilà pourquoi cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est reconstruite et si ses murailles sont achevées, alors tu n'auras plus aucun pouvoir sur la région de l'au-delà du fleuve.
Est-ce que ces fausses accusations vous rappellent quelque chose? Nos opposants nous accusent des mêmes choses aujourd'hui. Ils ne payent pas leurs impôts. Ils cherchent à causer du tort au gouvernement. Ils poussent les autres à la rébellion. Ils sont ingérables. Tout cela est faux, bien sûr. Mais à l'époque des Israélites, ces mensonges ont fonctionné. Le roi a ordonné de faire arrêter le travail et la reconstruction du temple a été interrompue. Quel dommage! Au tout début, quand les Juifs sont rentrés à Jérusalem, ils ne se sont pas laissés arrêter par la crainte de l'homme. Mais maintenant, ça les arrête. Nous aussi, nous rencontrons aujourd'hui une opposition de plus en plus forte. Mais ce n'est pas en transigeant avec notre foi qu'on sera plus joyeux, bien au contraire. C'est en restant fidèle qu'on gardera notre joie, même face à des persécutions très violentes. Et comment y arriver? Je vais vous raconter l'histoire de deux sœurs. Un jour, une maman et sa fille se sont retrouvées au milieu d'une foule d'hommes en colère. Ils voulaient à tout prix qu'elles achètent la carte d'un parti politique. Qu'allaient faire nos sœurs? Si elles cédaient et achetaient la carte, leurs opposants seraient très contents. Mais elles seraient malheureuses parce qu'elles auraient renié leur Père Céleste. Ces sœurs n'ont pas cédé. Évidemment, ça ne leur a pas fait plaisir qu'on se moque d'elles et qu'on les brutalise. Mais au moins, elles ont gardé une conscience nette. Et elles étaient profondément joyeuses parce qu'elles étaient restées fidèles à Jéhovah. Mais revenons aux Juifs au temps d'Esdras. Beaucoup ont peut-être laissé derrière eux une vie bien confortable à Babylone pour retourner à Jérusalem. Mais après avoir subi une opposition constante pendant 14 ans, depuis que les fondations du temple ont été posées jusqu'à ce que leurs activités soient interdites, les Juifs ont perdu leur zèle pour Jéhovah. Ils font les choses machinalement. Ils offrent des sacrifices, mais ils ne font pas ce que Jéhovah leur demande de faire, finir de reconstruire le temple. Face à l'opposition, ils se disent que ça ne doit pas être le moment voulu par Jéhovah pour finir leur mission. Apparemment, même le gouverneur Zorobabel et le grand prêtre Jéchoua ont besoin d'être encouragés. Jéhovah leur envoie donc le prophète Agée. Prenons le livre d'Agée au chapitre 1. Pendant 4 mois, Agée transmet des messages clairs et puissants qui vont au cœur du problème. Lisons Agée 1, versets 2 à 11.
Voici ce que déclare Jéhovah des armées. Ces gens disent « Le moment n'est pas encore venu de bâtir la maison de Jéhovah. » Et le prophète Agée continua de transmettre la parole de Jéhovah. Il dit « Est-ce le moment d'habiter dans vos maisons lambrissées, alors que cette maison est en ruine ? » Maintenant, voici ce que dit Jéhovah des armées. « Réfléchissez sérieusement à votre situation. Vous avez semé beaucoup, mais vous récoltez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, mais vous n'apaisez pas votre soif. Vous mettez des vêtements, mais vous ne vous réchauffez pas. Celui qui loue ses services met son salaire dans une bourse trouée. » Voici ce que dit Jéhovah des armées. Réfléchissez sérieusement à votre situation. Montez à la montagne, rapportez du bois et bâtissez la maison pour que j'y prenne plaisir et que je sois glorifié, dit Jéhovah. Vous espériez beaucoup, mais vous avez récolté peu. Et quand vous l'avez apporté chez vous, je l'ai fait disparaître en soufflant dessus. Pourquoi ? Dit Jéhovah des armées. Parce que ma maison est en ruine, alors que chacun de vous court dans tous les sens pour s'occuper de sa maison. C'est pourquoi le ciel a retenu sa rosée et la terre ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur la terre, sur les montagnes, sur les céréales, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur ce que produit le sol, sur les humains et le bétail, et sur tout le travail de vos mains.
Jéhovah compare les Juifs, qui ne recherchent que leurs propres intérêts, à des ouvriers qui mettent leur salaire dans une bourse trouée. Comme les Juifs négligent sa maison, Jéhovah ne les bénit plus. Leur travail ne produit pas beaucoup de résultats, donc ils ne sont pas heureux. Apparemment, certains essaient de combler ce vide en embellissant leur propre maison. Mais les choses matérielles ne peuvent pas combler les besoins spirituels. Contre quoi ça nous met en garde? Il n'y a rien de mal à aimer les belles choses, mais les biens matériels ne peuvent pas nous rendre vraiment heureux, surtout si on néglige notre service pour Jéhovah pour les acquérir. Rappelez-vous ce que dit Psaume 127, verset 1. Si Jéhovah ne bâtit pas la maison, c'est en vain que ses bâtisseurs y travaillent dur. Par contre, quand nous cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu, Jéhovah, lui, nous fournit ce dont nous avons vraiment besoin, au bon moment. Comme le dit Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de Jéhovah qui enrichit, et il n'ajoute aucune douleur avec elle. Mais revenons au temple. Quand il sera reconstruit, sera-t-il vraiment moins glorieux que celui de Salomon? Par l'intermédiaire d'Agée, Jéhovah donne la garantie que sa maison sera encore plus glorieuse. Écoutons la lecture d'Agée 2, versets 3 à 9.
Qui reste-t-il parmi vous qui ait vu cette maison dans sa gloire passée? Et comment la trouvez-vous maintenant? Ne semble-t-elle pas comme rien en comparaison? Mais maintenant, sois fort, Zorobabel, déclare Jéhovah. Et sois fort, grand prêtre Josué, fils de Josadak. Et soyez fort, vous tous, gens du pays, déclare Jéhovah. Et travaillez. Car je suis avec vous, déclare Jéhovah des armées. Rappelez-vous ce que je vous ai promis quand vous êtes sortis d'Égypte. De plus, mon esprit est toujours au milieu de vous. N'ayez pas peur. Car voici ce que dit Jéhovah des armées. Une fois de plus, dans peu de temps, je vais ébranler le ciel et la terre, et la mer et le sol ferme. Oui, je vais ébranler toutes les nations. Et les choses précieuses de toutes les nations entreront dans cette maison, et je la remplirai de gloire, dit Jéhovah des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, déclare Jéhovah des armées. La gloire future de cette maison sera plus grande que sa gloire passée, dit Jéhovah des armées.
Et quand le Créateur et propriétaire de l'univers tout entier annonce son projet, qu'est-ce qui peut l'empêcher de le réaliser? Rien, ni personne. Le message de Jéhovah est clair. Pourtant, les Juifs qui sont retournés à Jérusalem ont encore besoin d'encouragement. Jéhovah envoie alors un ange vers un autre prophète, Zacharie. Prenons ensemble Zacharie 1, versets 12 à 16, et lisons les paroles rassurantes que l'ange fait transmettre à Israël. Zacharie 1, versets 12 à 16.
Et l'ange de Jéhovah a dit:
Ô Jéhovah des armées, combien de temps vas-tu refuser ta miséricorde à Jérusalem et aux villes de Juda, contre lesquelles tu es resté irrité pendant ces 70 ans?
Jéhovah a répondu à l'ange qui parlait avec moi, en lui disant des paroles bienveillantes et réconfortantes. Alors l'ange qui parlait avec moi m'a dit:
Tu dois crier, voici ce que dit Jéhovah des armées. J'agirai pour Jérusalem et pour Sion avec zèle, oui, avec beaucoup de zèle. Je suis irrité, oui, très irrité contre les nations qui vivent tranquilles. En effet, alors que je ne ressentais qu'un peu d'irritation, elles ont rendu le malheur encore plus grand. Voici donc ce que dit Jéhovah. Je reviendrai à Jérusalem avec miséricorde. On y construira ma maison et on tendra une corde à mesurer sur Jérusalem.
Pour montrer à quel point Jéhovah prendra soin de son peuple, voici ce que l'ange dit au chapitre 2, versets 7 à 9.
Viens, Sion, échappe-toi, toi qui habites chez la fille de Babylone. Car voici ce que dit Jéhovah des armées, lui qui, après avoir été glorifié, m'a envoyé vers les nations qui vous pillaient. Celui qui vous touche, touche à la prunelle de mes yeux. Car maintenant je vais brandir ma main pour les menacer, et elles deviendront un butin pour leurs propres esclaves. Et vraiment vous saurez que c'est Jéhovah des armées qui m'a envoyé.
Est-ce que vous laisseriez quelqu'un mettre son doigt dans votre œil? Bien sûr que non. Eh bien, Jéhovah ne permettra pas plus aux adversaires des Israélites de leur faire du mal. L'ange révèle ensuite qui est à l'origine de cette opposition. Lisons Zacharie 3, versets 1 et 2.
Puis il m'a fait voir le grand prêtre Josué, qui se tenait devant l'ange de Jéhovah. Et Satan se tenait à sa droite pour s'opposer à lui. Alors l'ange de Jéhovah a dit à Satan:
Que Jéhovah te réprimande, ô Satan! Oui, que Jéhovah, qui a choisi Jérusalem, te réprimande. Cet homme n'est-il pas un bout de bois enflammé arraché du feu?
Est-ce que le but de tous ces encouragements, c'est que les Israélites aient plus confiance en eux? Pas du tout. Ils doivent se rappeler qu'ils ne peuvent rien accomplir sans l'aide de Jéhovah. Écoutons ce que l'ange dit à Zacharie au chapitre 4, versets 6 et 7.
Voici ce que Jéhovah dit à Zorobabel. Tout cela ne se fera ni par des forces militaires, ni par la puissance des hommes, mais par mon esprit, dit Jéhovah des armées. Qui es-tu, ô grande montagne? Devant Zorobabel, tu deviendras un pays plat, et il apportera la pierre du haut au milieu des acclamations. Qu'elle est magnifique! Qu'elle est magnifique!
Grâce aux paroles encourageantes de ces deux prophètes, les Juifs retrouvent leur confiance en Jéhovah et se remettent à construire le temple. Comme on pouvait s'y attendre, les nations ennemies menées par Tatenaï et Shethar-Boznaï passent elles aussi à l'action. Reprenons le livre d'Esdras au chapitre 5, versets 3 à 5.
À ce moment-là, Tatenaï, le gouverneur de la région de l'au-delà du fleuve, Shethar-Boznaï et leurs collègues vinrent leur demander:
« Qui vous a donné l'ordre de construire cette maison et d'achever cet ouvrage ?»
Et ils ajoutèrent:
« Donnez-nous les noms des hommes qui travaillent sur ce bâtiment. »
Mais Dieu veillait sur les anciens des Juifs, et on ne les empêcha pas de travailler tant que le rapport n'avait pas été envoyé à Darius et qu'un document officiel n'avait pas été expédié en retour.
Alors voici une autre leçon pour nous. Quand nous faisons courageusement la volonté de Jéhovah malgré l'opposition, il bénit nos efforts et nous permet de continuer à le servir. Mais revenons au récit biblique. Les Juifs doivent continuer la reconstruction du temple malgré l'interdiction. Sauf que le roi qui a ordonné l'interdiction a été assassiné après avoir régné 7 mois seulement. Donc, Tattenai et ses complices doivent s'adresser à un nouveau roi, Darius Ier. Dans le rapport qu'il lui envoie, ils utilisent les paroles de Zorobabel en espérant qu'elles se retournent contre lui. Il précise même que d'après Zorobabel, c'est le roi Cyrus qui a ordonné de reconstruire le temple. Il demande donc au roi Darius de vérifier si c'est bien le cas. Et c'est ce que fait Darius. Que va décider le roi Darius? La foi et la détermination que les Juifs viennent de retrouver les rendront-elles joyeux ou leur apporteront-elles plus de problèmes? Darius apprend que Cyrus a effectivement ordonné la reconstruction du temple. Lisons en Esdras 6, versets 6 à 12, la réponse ferme qu'il donne.
Maintenant donc, toi, Tattenai, le gouverneur de la région de l'au-delà du fleuve, et toi, Shethar-Boznaï, vous et vos collègues, les préfets de la région de l'au-delà du fleuve, ne vous occupez plus de cette affaire. N'empêchez pas les travaux de cette maison de Dieu. Le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs reconstruiront cette maison de Dieu sur son emplacement initial. De plus, je donne un ordre indiquant ce que vous devez faire en faveur des anciens des Juifs, afin que cette maison de Dieu soit reconstruite. C'est par la trésorerie royale, par l'impôt collecté dans la région de l'au-delà du fleuve, que les dépenses seront payées rapidement à ces hommes, afin qu'ils puissent poursuivre les travaux sans interruption. Et qu'on leur donne continuellement, jour après jour et sans faute, tout ce qui est nécessaire. Jeunes taureaux ainsi que béliers et agneaux pour les holocaustes au Dieu du ciel, blé, sel, vin et huile, selon ce que demanderont les prêtres qui sont à Jérusalem, afin qu'ils présentent continuellement des offrandes qui plaisent au Dieu du ciel et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. J'ai aussi donné l'ordre que toute personne qui transgressera ce décret soit punie pour son délit. Elle sera attachée en haut d'une pièce de bois arrachée de sa maison, et sa maison sera transformée en toilette publique. Que le Dieu qui a fait résider là son nom renverse tout roi et peuple qui tenterait de transgresser cet ordre en détruisant cette maison de Dieu qui est à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre. Qu'il soit exécuté rapidement.
Quand ils reçoivent la réponse du roi, Tattenai et ses collègues n'ont plus le choix. Non seulement ils doivent arrêter de s'opposer aux travaux du temple, mais en plus, ils doivent aider à financer le projet. Quel rebondissement inattendu pour les Juifs fidèles! En 515 avant notre ère, ils inaugurent le temple dans la joie, comme on le lit au verset 22.
Ils célébrèrent aussi avec joie la fête des pains sans levain pendant 7 jours. En effet, Jéhovah les avait rendus joyeux et leur avait attiré la faveur du roi d'Assyrie, si bien que le roi les avait aidés pour qu'ils effectuent les travaux du temple du vrai Dieu, le Dieu d'Israël.
Aujourd'hui, quand des autorités interviennent en notre faveur, nous leur en sommes très reconnaissants. Mais c'est à Jéhovah que nous sommes surtout reconnaissants, parce que c'est lui qui dirige les choses. Comme le dit Proverbe 21, verset 1, le cœur d'un roi est comme des ruisseaux d'eau dans la main de Jéhovah. Il le dirige partout où il veut. Donc, on ne veut pas mettre tous nos espoirs dans des dirigeants ou des institutions de ce monde. Aucun d'entre eux ne peut nous sauver de façon définitive. En fait, juste avant la fin du monde de Satan, toutes les nations se retourneront contre les serviteurs de Jéhovah. Mais ce qui leur arrivera sera pire que ce qui est arrivé à Tattenai. Alors, quelle leçon peut-on tirer des récits d'Esdras, d'Agée et de Zacharie? D'abord, Jéhovah bénit notre détermination à faire sa volonté, malgré des situations difficiles, mais il fait aussi échouer les tentatives de nos adversaires. Ensuite, quand nous faisons passer notre service pour Jéhovah avant notre confort matériel, il nous rend vraiment joyeux. Quelle est la mission que Jésus nous confie? Il a été clair quand, avant de retourner au ciel, il a dit à ses disciples, « Allez donc vers les gens de toutes les nations et faites des disciples parmi eux. » Est-ce que par nos pensées et nos actions, on montre que cette mission est plus importante que les biens matériels? Agé avait prédit qu'un jour, le temple de Jéhovah serait plus glorieux que celui construit par Salomon. Cette prophétie se réalise aujourd'hui. Jéhovah se sert de la prédication pour ébranler les nations. Et des millions de choses précieuses, des nouveaux adorateurs, viennent à lui. Des foules viennent joyeusement au grand temple spirituel qui représente les dispositions que Jéhovah a prises pour qu'on puisse l'adorer grâce au sacrifice de Jésus. Ce n'est pas le moment de nous consacrer à des maisons lambrissées ou à d'autres objectifs inutiles. Très bientôt, un jour où on ne s'y attendra pas, le monde de Satan va disparaître et nous entrerons dans le monde nouveau promis par Jéhovah. Donc, même si Satan essaie de nous décourager ou de nous détourner de notre objectif, ne le laissons jamais nous voler notre joie de servir Jéhovah. Continuons plutôt de nous laisser guider par Jéhovah jusque dans le paradis où nous le servirons joyeusement pour toujours. Zorobabel, Jéchoua, Agé et Zacharie ont fait beaucoup pour aider Israël à regagner l'approbation de Jéhovah. Plus tard, en 468 avant notre ère, Esdras est venu à Jérusalem pour aider le peuple à adorer Jéhovah de la bonne façon. Mais la nation allait encore avoir besoin d'être guidée. Jéhovah a donc envoyé un autre homme courageux. Lors des deux prochains jours d'assemblée, nous en apprendrons plus sur cet homme fidèle, Néhémie.